Les 13 heures. Voici le journal avec Sarah Guibaudeau. Bonjour.
Bonjour. Coup de chaud sur la France et à l'Assemblée nationale. La jeune militante suédoise du climat vient faire la leçon aux députés français. Nous ne sommes que des enfants. Vous n'êtes pas obligés de nous écouter, mais écoutez les scientifiques, leur a lancé Greta Thunberg. On retrouve Sandy Dauphin en direct dès le début de ce journal. Un premier rapport favorable à François de Rugy a été publié ce matin. Pas de dépenses injustifiées dans son logement de fonction, estime l'inspection du gouvernement. L'actualité est marquée donc par cette deuxième canicule. Sébastien Léas de Météo France, les températures s'envolent.
Oui, on a une vigilance orange canicule maintenue sur 59 départements. Cet après-midi, il fera 32 à 41 degrés en général, jusqu'à 42 degrés sur un large quart sud-ouest. Si c'est surtout le soleil qui domine cet après-midi, il faut aussi s'attendre à une évolution orageuse sur le relief du sud. Et des orages plus forts sont à craindre sur la basse Normandie, la Mayenne et la Sarthe en fin de journée. Les 5 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange aux orages forts, puisqu'on attend également de la grêle.
Un point complet en fin de journal. Et pour ne pas suffoquer dans la pollution, Paris et Lyon barrent la route aux véhicules les plus polluants.
Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment ?
Je sais.
Nous sommes sous un pic de pollution. La vignette 3 ne peut pas circuler dans Paris.
Je le savais. C'était le risque, c'est ça, hein ? D'habitude, je ne la prends pas. J'ai un scooter, mais là, je me suis fait avoir.
À l'hôpital, c'est toute l'année que les esprits s'échauffent. Un rapport alerte sur la hausse des violences. À Londres, on attend d'ici quelques minutes le nom du nouveau Premier ministre, grand favori très controversé Boris Johnson. Lui ne veut pas d'une grande fête pour ses 20 ans de règne. On s'arrêtera quand même sur les réformes inachevées du roi Mohamed VI au Maroc. 40 degrés attendus aussi sur la route du Tour. Les coureurs sont préparés avec des séances de sauna, vous l'entendrez. Et puis à Avignon, quels spectacles ont enflammé le festival? Premier bilan avec Stéphane Capron.
France Inter.
Petite robe noire et basket bleue avec sa longue tresse sur le côté, Greta Thunberg a l'air de garder la tête froide. La Suédoise de 16 ans qui a lancé les grèves des jeunes pour le climat vient d'être très applaudie à l'Assemblée nationale. Dans un anglais parfait, elle s'est adressée aux députés, du moins à ceux qui sont venus l'entendre. Beaucoup à droite contestent sa légitimité scientifique. À ses côtés d'ailleurs, la climatologue Valérie Masson-Delmotte doit aussi s'exprimer. Elle estime que c'est bien grâce à la jeune fille. Alors bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Qu'est-ce que Greta Thunberg est venue dire aux députés français et comment a-t-elle été écoutée ?
Je m'appelle Greta Thunberg. Comme si c'était encore nécessaire, la jeune Suédoise se présente en français. Le ton est grave. Elle cite le rapport du GIEC, page 108, chapitre 2. Notre budget carbone fond. L'adolescente bien au courant que sa venue a été critiquée par quelques députés.
Some people have chosen not to listen to us.
Certains ont décidé de ne pas nous écouter.
And that is fine.
Et c'est pas grave.
We are after all just
Après tout,
children.
Nous ne sommes que des enfants.
You don't have to listen
vous
to
ne devez
us.
Pas nous écouter.
But you do
Mais en
have
revanche,
to
vous devez écouter la science.
The scientists.
Les scientifiques.
And that is all we ask.
Et c'est tout ce qu'on yes. demande. Dans la salle, une cinquantaine de jeunes militants pour le climat et 150 députés qui se sont inscrits ce matin à l'entrée de l'Assemblée nationale. Certains élus ont par contre ostensiblement dit qu'ils boycotteraient la séance. Benoît Simion, député La République En Marche de la Gironde.
Je sors d'une réunion de travail et on continue. Nous sommes au travail, nous avons autre chose à faire, je le dis une fois de plus, que ce type de spectacle médiatico-politique. Merci.
Une polémique qui consterne la climatologue Valérie Masson-Delmotte qui participe à cette séance aux côtés de Greta Thunberg.
Moi, ça m'intéresse pas du tout ces polémiques. Je les trouve extrêmement futiles et je vais vous le dire autrement. On parle de la messagère en l'occurrence, mais on parle pas du problème. Et ce qui m'intéresse, c'est parler du changement climatique, sa réalité qui affecte tout le monde, les écosystèmes et les gens. Parler des risques et aussi parler des solutions et faire en sorte que ces solutions soient déployées.
La climatologue confiait ce matin que ces derniers mois, elle a été bien plus souvent invitée à parler par des lycéens que par des députés pour expliquer les conclusions du rapport du GIEC.
Merci Sandy Dauphin en direct de l'Assemblée nationale avec Arthur Gerbeau à la technique. Retrouvez aussi les principales déclarations de Greta Thunberg sur franceinter.fr. Une semaine après sa démission, François de Rugy va-t-il être blanchi ? Un premier rapport a été publié ce matin. Yael Gauze, celui sur les travaux de rénovation effectués dans son appartement au ministère de la Transition écologique et le secrétariat général du gouvernement ne voit aucune dépense injustifiée.
Oui, et pour bien montrer l'impartialité de cette enquête, les conclusions sont signées par la contrôleuse générale des armées, missionnée pour aller fouiller dans toutes les factures. Une inspection qui confirme d'abord qu'il fallait bien faire des travaux dans ce bâtiment du XVIIIe siècle, où François de Rugy et Nicolas Hulot avant lui ont mentionné la présence de rongeurs. Conclusion de l'enquête, aucune rénovation depuis 2003. Le relatif état d'usure dans certaines pièces pouvait justifier ces travaux. Fin de citation. Sur le montant de la facture, rien à dire non plus. Les règles de la commande publique ont été globalement respectées, dit le rapport. Pas d'irrégularité donc, mais quelques interrogations. Pourquoi une telle urgence sur certaines commandes? Référence au fameux dressing à 17 000 euros. Et puis, une facture qui grimpe à cause du degré de finition. 16 000 euros de rechampissage, terme technique qui désigne la réfection des moulures. Opération transparence totale. Vous trouverez même le prix de la barre de douche en chrome proposée par le plombier à 236 euros hors taxe. À la publication de ce rapport, Matignon ajoute une circulaire pour renforcer le contrôle des travaux dans les logements de fonction. Au-delà d'un certain seuil, ce sont désormais directement les services du Premier ministre qui valideront ou non les devis.
Le rapport de l'Assemblée nationale sur les dîners du couple de Rugy est attendu dans l'après-midi. L'ancien ministre prépare sa contre-attaque. Le mercure n'est pas descendu en dessous de 25 degrés la nuit dernière à Bordeaux ou dans le Gers. Et cet après-midi, les températures devraient s'élever au-dessus de 40 à Agen, Limoges ou Nantes. L'alerte canicule concerne 59 départements du sud-ouest à l'Île-de-France et au centre-est. On étouffe et on risque de s'intoxiquer dans un nuage de particules fines. Seule solution à court terme, la circulation différenciée mise en place à Lyon et à Paris. Alors les véhicules les plus polluants sont-ils bien restés au garage? Adrien Bossard a suivi un contrôle de police dans la capitale.
Dans le petit sas aménagé par l'escadron de contrôle routier, les voitures défilent.
Messieurs, bonjour, je vous demande de couper le contact, de me présenter le permis de conduire, l'assurance du véhicule ainsi que le certificat d'immatriculation.
Certains automobilistes restent à peine une minute, tout est conforme. Pour d'autres, ça va durer.
Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment?
Je sais.
Nous sommes sous un pic de pollution, la vignette 3 ne peut pas circuler dans Paris.
Au contraire des critères 1 et 2, à chacun sa technique. La mauvaise foi, du style « je suis pas au courant ».
Je comprends pas, là, ça me fait perdre du temps pour rien.
Ou la bonne excuse.
Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est juste que j'ai de la poubelle derrière et je dois y aller le jeter à la déchetterie. Si je le laisse là-dedans, ça va pourrir, ça va puer.
Mais qui, dans tous les cas, ne marche pas. Salim Beaujoueur s'avoue vaincu.
Je le savais.
C'était le risque, c'est ça, hein.
D'habitude, je ne la prends pas. J'ai un scooter, mais là, je me suis fait avoir. Ça arrive.
Résultat, 45 euros d'amende et prière de retourner à la maison pour garer la voiture.
Alors, je signe sur quoi exactement? Oui, mais c'est marqué quoi tout ça, là?
Vous pouvez lire l'infraction qui est caractérisée ici en texte gras.
Il n'y a pas de perte de points, il n'y a rien.
Non, c'est 45 euros sans perte de points.
Ok, c'est bon.
D'accord.
Comme Salim, 17 personnes se sont pris une amende en l'espace de 2 heures sur ce point de contrôle. La circulation différenciée est aussi en vigueur sur le périphérique jusqu'à la frontière formée par la 86.
Cette nouvelle canicule va encore assécher les sols. Les nappes phréatiques sont déjà trop basses. Là, c'est à cause du manque de pluie l'automne et l'hiver dernier. L'eau baisse et se réchauffe aussi dans les fleuves. À l'arrêt, aujourd'hui, les 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour la production d'électricité, mais à l'avenir, ces températures plus chaudes risquent bien de poser des problèmes à EDF, estime Thibault Laconde. Il est professeur à l'école centrale Supélec et spécialiste des transitions énergétiques.
On a des centrales qui ont été construites dans les années 70 sur des hypothèses climatiques qui aujourd'hui sont dépassées. Le problème, c'est un problème d'adaptation des installations existantes à un climat qui n'est pas celui qu'elles avaient lorsqu'elles ont été créées. Une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, en fait, a besoin d'une source froide pour se refroidir. Ça peut être un fleuve, ça peut être un océan. Donc si la température est trop élevée, on va perdre en rendement et la centrale augmentant encore la température du fleuve, on risque d'avoir des dommages pour les écosystèmes. Si on est dans une situation de sécheresse où on n'a plus assez d'eau pour refroidir la centrale doit s'arrêter. EDF a travaillé sur ces centrales pour essayer de les faire évoluer, notamment depuis la canicule de 2003. Tout le monde s'était fait un peu peur. Mais il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas modifier. Et ça doit être pris, je pense, comme un avertissement. C'est des problèmes qui vont s'amplifier dans les années qui viennent. Presque tous les ans, à avoir ce type d'épisode, la nouvelle normalité, en quelque sorte, d'avoir des centrales qui s'arrêtent en été. Donc il faut travailler sur l'adaptation des outils existants. Il faut voir qu'en France, on a quand même un mix électrique qui est assez unique, avec une dépendance au nucléaire qui est à 70 ou 75%. Aucun autre pays dans le monde est dans cette situation-là. Donc on les premiers à devoir s'intéresser à ce sujet-là et d'autres ne vont pas le faire à notre place.
Propos recueillis par Laurent Kramer. Brumisateur et bouteille d'eau, changement d'horaire, on essaye de s'adapter. Certains craignent de faire les frais de cette canicule, comme les châteaux de la Loire, qui ont reçu presque un tiers de visiteurs en moins lors du premier épisode en juin. À Jambeville, dans les Yvelines, les scouts vont devoir gérer leur traditionnel rassemblement d'été. Il a lieu tous les deux ans, avec 20 000 ados de 11 à 14 ans survoltés. Mais la devise, elle, n'a pas changé, Rémi Brancato.
C'est bien connu, les scouts sont toujours prêts.
Ça fait du bien, là.
Et pour la canicule aussi.
Le brumisateur, ça fait super du bien parce qu'il fait super chaud. Parce que là, il y a plein de sacs à porter, c'est vraiment le truc qu'il fallait.
Des brumisateurs en renfort dans le parc de 50 hectares et des tentes qu'on plante au frais sous les arbres. Face aux fortes chaleurs, les scouts de Martinique sont sereins, comme Jean-Noël, 13 ans.
En Martinique, les températures, ça frôle les 30 degrés tous les jours.
On va plutôt frôler les 40 quand même cette semaine.
Ah, il n'y a pas d'inquiétude.
Les 2000 bénévoles se sont tout de même préparés.
Je m'attends à être sollicitée, pas mal, oui.
Anne-Marie est l'une des 12 infirmières, elle a décoré sa tente pour l'occasion.
Il y a une casquette d'affichée avec « N'oublie pas ta casquette » et puis un petit rappel canicule, « N'oublie pas de boire, manger, te reposer et ta casquette ».
Tout est prévu, 14 médecins, 30 secouristes, un véritable hôpital de campagne. Et avec la météo, Jérôme Ocordier, le responsable logistique, a changé les plannings.
Entre midi et 16h, ils ne seront pas à l'extérieur, ils sont sous les bois. Et on reprendra les activités à partir de 17h. On s'est adapté en moins de 12h.
Pas d'inquiétude donc pour Marie Mulet à Brassard, la présidente des Scouts et Guides de France.
C'est la force du scoutisme, c'est qu'avec ces 2000 bénévoles, on a réussi à réagir. Et donc j'aborde cette canicule avec une grande sérénité.
Des bénévoles qui ont aussi acheminé des réserves en eau supplémentaires.
À l'hôpital, tout au long de l'année, il en faut peu pour que les esprits s'échauffent. Selon un rapport de l'Observatoire des violences en milieu de santé, les violences à l'hôpital ont augmenté de près de 6% l'année dernière, Solène Lehen.
Ce sont surtout les infirmiers et les agents d'accueil qui sont les souffre-douleurs des patients et de leurs proches, victimes d'insultes, de menaces de mort. Exemple cité par le rapport, je vais t'égorger, te brûler, toi et ta famille. Des violences également physiques, elles concernent la moitié des signalements, de la claque à la tentative de meurtre où tout devient alors une arme, une béquille, un scalpel, un pied à perfusion. Les patients s'en prennent aux soignants mais aussi à d'autres patients ou à d'autres résidents dans le cas des EHPAD. Ainsi, ce résident qui a essayé d'étouffer un voisin de chambre avec un oreiller, ou bien cette dame qui en a violenté une autre avec ses aiguilles à tricoter. Parmi les agresseurs, 1 sur 5 souffre de troubles psychologiques, 1 sur 10 est alcoolisé, mais il y a aussi et de plus en plus monsieur et madame tout le monde qui dérapent en quelques secondes après une contrariété, une situation pas propre aux hôpitaux mais à tous les services qui accueillent du public. Pour y remédier, le ministère de la Santé entend mieux former les personnels et leur apprendre à prévenir et gérer ces crises de violence.
Et le syndicat Force Ouvrière demande au gouvernement une prime canicule pour les agents des hôpitaux et des structures médico-sociales.
Le journal de 13h sur France Inter.
À Buckingham Palace aujourd'hui, la reine Elisabeth II d'Angleterre attend la démission de Theresa May et va recevoir son successeur. Un protocole immuable pour un gros changement à la tête du gouvernement britannique. C'est bien Boris Johnson qui va s'installer au 10 Downing Street. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Sa victoire vient d'être annoncée.
Absolument, vous l'entendez d'ailleurs derrière moi, il est sur scène, Boris Johnson. Il a battu Jeremy Hunt, son rival, avec 66% des voix, vote organisé au sein du parti conservateur. Maintenant, il va donc prendre la parole pour expliquer les principales orientations de son gouvernement, nommer aussi probablement quelques ministres. Ça reste à voir dans les minutes qui viennent.
Alors Boris Johnson a été maire de Londres, ministre des Affaires étrangères. Pourtant, il traîne une réputation de clown qui ne connaît pas ses dossiers. Avec lui, quel est le programme, Antoine ?
Il va falloir évidemment attendre les 24 heures qui viennent pour en savoir un peu plus, mais il a déjà commencé à donner le ton, Boris Johnson. Et pour faire oublier justement cette mauvaise image, ce qu'il promet, eh bien, c'est de dépenser de l'argent, terminer la politique d'austérité menée par Theresa May, terminer les suppressions de postes de fonctionnaires, les coupes dans le budget des hôpitaux. Il veut augmenter le salaire minimum, alléger les impôts des classes moyennes, embaucher des policiers et des profs, des promesses tous azimuts chiffrées par le Daily Telegraph à plus de 30 milliards d'euros. Aucune précision en revanche sur le financement. L'entourage du futur Premier ministre explique que le Brexit va permettre de faire des économies et qu'il y aura aussi des emprunts d'État. Le déficit va augmenter, explique un ancien ministre, et une partie des conservateurs s'inquiète d'un ralentissement de l'économie. Un nuage noir plane sur le pays, explique Sir Alan Duncan, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui démissionne tout comme ses collègues à l'économie, la justice, le développement international, à l'éducation. On s'attend au total à une douzaine de départs au sein du gouvernement actuel.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Il y a tout juste 20 ans, au Maroc, le roi Mohamed VI succédait à son père, Hassan II, et affichait sa volonté de changement. Alors quel bilan aujourd'hui ? Un gouvernement de coalition, la libéralisation de l'économie qui profite à la classe moyenne et des réformes sociales, même si sur le plan des libertés, il reste beaucoup à faire, Valérie Crova.
Depuis son accession au trône, Mohamed VI a fait du droit des femmes une priorité. L'adoption d'un nouveau code de la famille établit une égalité entre les époux, autorise une forme de divorce par consentement mutuel et fixe l'âge légal du mariage à 18 ans. Autant d'avancées dans une société patriarcale où subsistent encore des freins puissants, notamment en ce qui concerne les droits liés à l'héritage. Face au chômage qui touche encore majoritairement les jeunes, plus de 60% d'entre eux, le gouvernement marocain a mis en place l'été dernier un plan pour favoriser leur insertion dans le monde professionnel. Qu'en est-il des droits de l'homme ? Tandis que le ministre en charge des droits humains affirmait début juillet que la torture n'existait plus au Maroc, une ONG recensait récemment 27 cas de traitements cruels ou dégradants pendant des gardes à vue. En deux décennies, les vieilles pratiques héritées des années de plomb de l'époque d'Hassan II n'ont pas toutes disparu, comme la peine de mort qui n'a toujours pas été abolie. S'il existe un moratoire, 10 condamnations ont encore été prononcées en 2018.
Deliveroo a été condamné ce matin en Espagne. Un tribunal de Madrid estime que les livreurs sont bien soumis à une relation de travail avec le leader de la livraison qui doit payer ses cotisations sociales. Pic de chaleur sur le Tour de France alors que la lutte pour le maillot jaune a rarement été aussi palpitante avec deux sérieux prétendants au titre chez les Français. Julien Alaphilippe, toujours leader, va-t-il finir par s'épuiser ? Et Thibaut Pinot, quatrième au classement général, qui a fait du sauna pour résister aux fortes températures. Fanny Lechevestrier.
Nîmes, ses arènes, le doué des cigales, mais aussi donc depuis hier la canicule qui vous attrape la gorge et vous coupe le souffle. Voilà à quoi vont être confrontés les coureurs durant les prochains jours. Et cela pourrait bien tout changer, avertit le Français Stéphane Rossetto.
40 degrés, ça veut dire c'est très 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 dur. Plus dur encore que de monter certains cols. Il peut y avoir des défaillances, donc ne nous enflammons pas.
Alors pour éviter de prendre feu, on s'hydrate. Les coureurs vont boire au minimum 10 litres d'eau par jour, mais on peut aussi se préparer en amont. Thibaut Pinot, peu adepte de la chaleur, a tout fait pour faire face à cette éventualité, explique le médecin de l'équipe, Jackie Maillot.
Au mois de juin, on fait travailler les coureurs en ambiance chaude, on fait du sauna régulièrement pour habituer le corps à des fortes chaleurs, et puis entraînement au traîneur en milieu très chaud. Donc ça crée des adaptations qui servent après.
Thibaut Pinot a donc multiplié les séances de sauna pour passer l'épisode de la canicule, et son partenaire de chambre, Rudy Mollard, se veut rassurant.
On n'est pas à l'abri peut-être aussi de quelques orages dans les Alpes, ce serait sympa pour nous, mais non, et quand il est en forme, il passe bien la chaleur. À la Volta l'année dernière, il y avait 40 degrés, il y a deux étapes.
Et une certitude, le tour se joue avec un peu de chance donc, mais aussi et surtout sur cette préparation invisible, ces petits détails qui au final font toute la différence. À Nîmes, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et départ de cette 16e étape que vous suivrez pour nous, Fanny, dans quelques minutes pour 177 km autour de Nîmes. Au Festival d'Avignon, le off bat son plein, le in s'achève avec un taux de remplissage de 95%. Les spectateurs étaient au rendez-vous. Stéphane Capron, votre bilan de cette 73e édition.
Tu te prends pour qui ? Dis-moi, tu te prends pour qui ?
À presque 70 ans, Jacques Weber a joué pour la première fois de sa carrière au Festival d'Avignon dans Architecture, la saga familiale Fleuve, écrite par Pascal Rambert, une distribution extraordinaire pour un spectacle qui a divisé la critique, ce qui n'a pas étonné le directeur du festival, Olivier Py.
Pascal est l'écrivain français vivant le plus joué dans le monde. Il a choisi de faire un spectacle long, puissant, radical même. Quand j'ai proposé la cour, je me doutais bien qu'il ne ferait pas consensus, connaissant le bonhomme.
En deuxième partie de festival, Outside, la pièce de Kirill Serebrennikov a, elle, fait l'unanimité. C'était le deuxième spectacle le plus attendu de cette édition. Il n'a pas déçu. Un triomphe que le metteur en scène russe a dû savourer à distance.
Au-delà de son destin personnel, il a un procès qui l'empêche de sortir aujourd'hui de la ville de Moscou. Ce spectacle est une véritable merveille. J'ai été bouleversé par ce spectacle, j'ai pas été le seul. Oui.
L'année prochaine, l'édition sera traversée par les dieux grecs, Eros et Thanatos, avec comme thématique centrale celle du corps. C'est Jean Bellorini, le futur directeur du TNP de Villeurbanne, qui aura la lourde tâche de succéder à Pascal Rambert dans la cour d'honneur.
Et le festival OFF d'Avignon se poursuit, lui, jusqu'à dimanche.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Quel à propos avec Sébastien Léas de Météo France, de la chaleur et des orages.
Les températures sont de plus en plus chaudes et les maximales peuvent même battre des records historiques cet après-midi. 59 départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange à la canicule. Il fait généralement entre 32 et 41 degrés. Dans le sud-ouest, le mercure peut même grimper jusqu'à 42 degrés. En plus de la chaleur, attention aussi aux orages. Quelques averses localement orageuses se développent sur les Alpes du Sud, l'Est des Pyrénées et le Sud du Massif Central. Et en fin de journée, une évolution plus marquée va se déclencher sur le Nord-Ouest. Des orages localement forts et porteurs de grêle sont à craindre entre la Basse-Normandie et les Pays de Loire. C'est pourquoi Météo France a également émis une vigilance orange aux orages jusqu'à ce soir. Une autre vague d'averses orageuses va aussi se mettre en place en soirée sur le Pays Basque et les Landes. Et le vent deviendra fort, voire violent. D'ici là, l'après-midi restera sous la domination du soleil.